L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Avez-vous vos épées avec vous?
Amen. Aujourd'hui, on va commencer peut-être une série, on va voir comment le Seigneur va diriger, mais on va commencer au moins une prédication sur le thème « Vivre dans la parole de Dieu ». Vivre dans la parole. Donc, c'est important ce matin d'avoir la parole de Dieu avec nous, parce que comme j'apporte la parole, ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez voir le texte vous-même, que vous puissiez voir les versets, parce que c'est la parole de Dieu qui va changer vos vies. Amen. Êtes-vous réveillé ce matin? Amen. Est-ce que vous respirez? Amen. C'est un bon signe. Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu qui va être prêchée, ce qui est important, c'est de recevoir ce que Dieu veut vous dire. Et des fois, on peut écouter un message, et je l'ai déjà dit, mais je veux le redire encore. Des fois, on entend un message et on pense, ça c'est bon pour mon frère, ça c'est bon pour ma sœur. Avez-vous déjà été comme ça? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça peut être bon pour vous aussi. Ça peut être bon pour vous. Et puis ce matin, ce qu'on veut faire, c'est un grand ménage. Un grand ménage, premièrement, au niveau des distractions. Donc, vous savez, des fois, on peut être là, on peut entendre un message et on va penser à notre poutine. Il y en a comme ça. Vous allez penser à votre poutine. Ou peut-être vous allez penser à la dinde qui est dans le four. Ou peut-être vous allez penser à la lasagne que vous allez manger. Ou peut-être vous allez penser à un frère ou une sœur dans l'église et vous allez penser concernant leur vie et comment vous, vous pensez que vous êtes meilleur qu'eux. Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui, ça peut arriver. Des fois, on est distrait puis on va ailleurs dans nos pensées. Il y a toutes sortes de choses où l'ennemi veut venir et s'infiltrer dans nos pensées pour nous empêcher de recevoir la parole de Dieu. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est le grand ménage. Êtes-vous prêts? On va prier ensemble. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui transforme encore nos vies. On sait qu'une seule parole de toi peut changer nos vies à tout jamais. Et ce matin, au nom de Jésus, on prend autorité contre tout esprit de mensonge dans cette place qui voudrait venir distraire nos frères et nos sœurs. Et au nom de Jésus, nous déclarons que chaque personne ici reçoit la parole de Dieu, que cette parole vient dans un bon terrain, que cette parole est reçue et cette parole, la semence de la parole, transforme des vies aujourd'hui même. Au nom de Jésus, on a prié et ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Donc, on est déjà transformé. Déjà là, en ce moment, juste le fait d'avoir pris la décision, on est en train de changer, le sentez-vous. On est en train de changer même là. Vous savez, il faut déjouer les plans de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, là, c'est toujours de mettre des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Il veut vous empêcher de recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous, mais il faut être plus intelligent que le diable. Amen. Donc, ce matin, on va apporter le message « Vivre dans la parole ». Vivre dans la parole. Et je me souviens, le ministère de Joyce Meyer, avant de s'appeler Joyce Meyer Ministries, son ministère s'appelait « Life in the Word ». Et nous, on l'a découvert il y a plusieurs années, lorsqu'elle prêchait dans des petites salles de conférences avec des petites tables, et puis ses grosses lunettes, ses vêtements qui brillaient, et puis son style a changé depuis ce temps-là. Les salles, c'est plus des petites salles de conférences. Maintenant, c'est mondial. Mais son ministère a commencé avec le titre du ministère « Life in the Word »,« Vivre dans la parole », si on veut, ou « La vie dans la parole ». Et on le sait que ça, c'est la clé pour vivre la bénédiction de Dieu dans nos vies. Être dans la parole de Dieu, c'est vraiment la clé pour vivre ce que Dieu a en réserve pour nous. Êtes-vous d'accord? Et puis, on peut le voir, si on met la parole de Dieu en priorité dans nos vies et vraiment avoir un temps chaque semaine, à chaque jour, où on médite la parole de Dieu et où on permet à la parole de Dieu de transformer nos vies, on va voir sa gloire éclater dans nos vies. Amen. C'est sûr et certain que le diable, des fois, va essayer de vous enfarger. Est-ce que vous êtes déjà enfargé? Est-ce que ça se peut qu'on s'est déjà enfargé dans notre parcours avec Dieu? Est-ce que ça se peut que vous avez déjà chuté dans le péché? Le diable va vous dire, t'as chuté, reste à terre pour toute ta vie. Mais quand on chute, la Bible nous dit, relève-toi. Amen. On se relève et on ne se laisse pas condamner par Satan. Parce que c'est ça le travail de Satan. Il veut vous disqualifier. Il veut que vous vous disqualifiez vous-même en disant, ben, tu ne peux pas avancer. C'est impossible pour toi de vivre les victoires à cause de ton passé, à cause de fait ceci, de fait cela. Mais au nom de Jésus, vous savez, le sang de Jésus purifie complètement. Le sang de Jésus purifie complètement. Et ce matin, si vous avez un cœur ouvert et si vous êtes prêt à vous laisser changer, transformer par Dieu, il va le faire. Amen. Donc, ce matin, on avance tous dans la même direction. On est des soldats qu'on se lève, puis on dit, on entend la parole et on va se laisser transformer par Dieu. Donc, la vie dans la parole. Dans le psaume 34, verset 6, il est écrit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. En nous-mêmes, on peut vivre dans la honte, mais si on tourne les regards vers le Seigneur Jésus, qui a tout payé pour nous, qui nous a pardonné, qui nous a purifié, on n'est pas recouvert de honte, on est recouvert de sa gloire et la joie nous envahit. Et notre visage va démontrer la joie de l'Éternel. Amen. Il y en a une personne qui a dit « Amen ». Je vais le relayer. Deux, trois, OK. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Amen. Voulez-vous rayonner la joie de Dieu dans vos vies? OK, oui, mais le dimanche matin, oui, je suis d'accord, dimanche matin, mais lundi, non, non, ça ne se peut pas. Mais vous savez, vous pouvez rayonner la joie de Dieu à chaque jour de vos vies, mais il y a une condition, vous devez être des personnes qui vivent dans la parole de Dieu. Vous devez vivre dans la parole de Dieu. Amen. Moi, j'ai pris la décision ce matin que je vais vivre dans la parole de Dieu. Amen. Bon, je vais vous inviter maintenant dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. C'est très important pour vous. Je veux vous encourager. Si vous venez à l'église et vous n'avez pas une Bible, venez nous le dire et puis on va essayer de vous aider. Parce que chaque chrétien, quand on vient à l'église, vous savez, on est dans une église où on prêche la parole de Dieu. Donc ça, c'est comme si vous allez... vous allez à l'école, mais vous n'avez pas de stylo, de crayon, vous n'avez pas l'équipement, mais on est des enfants de Dieu, et les enfants de Dieu, c'est des gens qui vivent la parole, donc on devrait avoir notre épée avec nous. Amen, à l'église. Donc, c'est vraiment important, venez à l'église avec votre Bible, parce que ce n'est pas ma parole qui compte, c'est la parole de Dieu qui compte. Amen. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, ce que je veux premièrement établir, et cette série, moi, j'ai l'impression que ça va être une série, mais en tout cas, ce message ce matin... C'est vraiment très important parce que si on peut comprendre que Dieu nous appelle à vivre dans la parole, ça va changer le parcours de notre vie. Mais non seulement ça, il y a une différence entre les gens dans la religion et ceux avec le Seigneur Jésus qui vivent une relation avec lui. La différence, c'est l'autorité spirituelle dans nos vies. L'autorité spirituelle pour l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'on veut établir premièrement, que l'autorité dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Donc, moi, si j'ai une opinion, si je pense ceci, cela, peu importe ce que je peux penser, ce qui compte, ce n'est pas mes pensées, pas mes idées, c'est ce que Dieu pense. Amen? C'est ça qui fait toute la différence. La religion dit, ben nous, on pense ceci, écrivez-nous à casier postal, telle place, et puis notre siège social, c'est là. J'expliquais ça hier à l'IBEM. Déjà, des personnes m'ont dit, ben pour la religion des chrétiens, on écrit à quelle place? Ben, on ne peut pas écrire à la Nouvelle-Jérusalem, elle est au ciel. Le siège social est dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc, et puis son chef, le président, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chef de l'Église. On ne peut pas voter pour lui. On ne peut pas le voter qu'il doit quitter son poste. Il est là en permanence. Amen. Il y a une religion à Salt Lake City. Ça, c'est leur siège social. Une autre à Brooklyn, siège social là-bas. On peut regarder les sièges sociaux partout à travers le monde. Il y a des places où on peut écrire à telle religion. Mais être un enfant de Dieu, on ne peut pas écrire à telle religion parce que l'autorité, ce n'est pas au Vatican, ce n'est pas ailleurs, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, l'autorité de notre foi, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qu'on doit voir, en passant, on ne reçoit jamais des courriels pour dire, finalement, il y a une nouvelle version de la Bible et puis là, on va retrancher 2-3 pages. On n'entend pas ça, parce que la parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas. La parole de Dieu est sûre et certaine. Amen. Donc, l'autorité sur nos vies, c'est la parole de Dieu. Donc, si on croit, c'est la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour que Dieu m'a envoyée pour que je puisse vivre éternellement avec lui, pour que je puisse établir une relation vivante avec lui. Tout ce que Dieu dit pour ma vie, c'est bon. Amen. Tout ce que Dieu dit pour ma vie, c'est bon et je dois recevoir la parole de Dieu. Et si ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas à moi de changer la Bible, c'est à moi de changer et me soumettre selon la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin, l'autorité de la parole de Dieu. Et vous verrez par la suite des choses que le Seigneur veut faire dans nos vies pour qu'on puisse aller à l'autre niveau. La semaine passée et les semaines précédentes, on a parlé de la guérison de l'âme, comment Dieu voulait guérir notre âme. Et je crois que plusieurs personnes ici, vous êtes en train de vous laisser guérir au nom de Jésus. Vous êtes en train de vivre des choses à la maison. Vous prenez vos médicaments spirituels et vous progressez au nom de Jésus. Amen.
Je ne crois pas que vous êtes des auditeurs oubliés. Je crois que ce que vous avez reçu, vous allez prendre soin de ces choses-là et vous allez vous assurer que vous progressez vraiment et vous ne vous laissez pas voler. Maintenant, comme je sais, vous prenez vos médicaments, je vais vous dire déjà là où on s'en va avec Dieu et c'est dans la parole. Amen. Donc, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, ici, ça nous parle de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu par le Saint-Esprit, qui a inspiré des hommes, oui, c'est des hommes qui l'ont écrit, mais l'inspiration venait pas de l'homme, l'inspiration venait de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, dites utile, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous comment c'est super important ici. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc ce matin, ce que je vous enseigne, ce n'est pas l'idée du pasteur Joel Spink, ce n'est pas ça l'idée, ce n'est pas d'une revue, ce n'est pas d'un livre, c'est de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui compte dans nos vies. Je peux écrire un livre, mais dans 10 ans, peut-être je vais dire, oh, ben, Dieu m'a révélé des choses qui ne sont plus vraiment pareilles. Moi, je peux changer d'idée, mais Dieu ne change pas d'idée. C'est ça qui est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Dieu ne changera jamais d'idée. Amen. Gloire à Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu, mais la parole de Dieu peut vous convaincre que la Bible est vraie. Pour corriger. Peut-être que votre vie n'est pas selon la volonté de Dieu, mais quand vous allez entendre la parole de Dieu dans vos oreilles, si votre cœur est ouvert, vous pouvez recevoir la vérité et être affranchi aujourd'hui, être totalement libéré, être convaincu et corrigé par la parole, pour instruire dans la justice ou dans la bonne façon que Dieu voudrait que vous puissiez recevoir dans votre vie ou la façon de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu veut nous préparer à le servir et répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. Et dans Osée 4:6, c'est un texte super important. Vous savez, il y a un courant dans le corps de Christ, des fois, qui est contre la connaissance de la parole, où on dit « Ah, c'est pas vraiment important. » Écoutez bien ceci, je vais vous dire si c'est important ou non. J'ai entendu une prédication l'autre jour, et puis le pasteur dit « Ah, ben nous autres, on veut pas prêcher la doctrine, c'est pas important la doctrine. » Premièrement, le mot « doctrine », savez-vous, la signification, j'enseignais ça à l'IBM hier, le mot « doctrine » veut dire « enseignement ». C'est ça que ça veut dire. Mais c'est parce qu'on a eu le mot, on l'a utilisé d'une mauvaise façon, on a eu une connotation négative, par exemple, on a dit, ben, ils se sont fait endoctriner, et habituellement, c'est négatif, n'est-ce pas? Quand on entend ça, ils se sont fait endoctriner, ça veut dire ils se sont fait avoir, puis ils se sont fait bourrer le crâne avec toutes sortes de mensonges. C'est comme ça, on l'entend, nous autres. Mais le mot doctrine, ça veut juste dire enseignement. Est-ce que c'est bien d'être enseigné dans les voies de Dieu? Oui, c'est bien, c'est pas mauvais du tout, c'est très, très bien, et c'est merveilleux. Parce que dans Osée 4:6, il est écrit, « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si on ne connaît pas notre héritage en Christ, si on ne connaît pas notre autorité en Christ, on va se faire voler tout au long de notre vie chrétienne. Et c'est ça qui se passe avec la majorité des chrétiens dans la francophonie que j'ai rencontrés. Les gens se font voler parce qu'ils ne connaissent pas leur autorité en Christ, ils ne connaissent pas ce qui leur appartient véritablement. On se laisse voler par la tradition des hommes. Jésus a dit, vous annulez la parole par votre tradition. Donc, la tradition vole les gens de la connaissance biblique. Ce matin, ce qu'on veut faire, c'est vraiment se laisser imprégner de la parole de Dieu pour être transformé et voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais la première chose qu'on doit établir, c'est l'autorité absolue de la parole de Dieu dans nos vies. L'autorité absolue, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, en même temps, la parole de Dieu est votre guide ultime pour recevoir la direction de Dieu dans vos vies. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 3 et le verset 5 à 6. Je suis désolé si je suis un peu passionné ce matin, mais pour moi, il n'y a rien de plus important que la Bible. Ce que Dieu nous dit. Amen. Vous savez, il y a un courant aussi qui dit, ben, il faut être dans l'esprit, et je suis dans ce courant-là, mais je ne suis pas dans l'esprit sans la Bible. On ne peut pas dire, ben, moi, je choisis la Bible et je dis non au Saint-Esprit, ou je dis oui au Saint-Esprit et je dis non à la Bible. C'est impossible. Parce que celui qui a inspiré la Bible, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, je veux la parole et je veux le Saint-Esprit. Je veux le combo. Amen. On veut avoir tout le kit, pas une partie. Tout le kit, la parole de Dieu qui est inspirée par le Saint-Esprit, et on veut également l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. la présence de Dieu. On veut l'adorer et vivre ce que Dieu en réserve pour nous. On voit ici dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, dans la Bible du Sommeur, ça dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Voyez-vous ça? Je le relis. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça dit, « Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté. » Comment ça? Comment est-ce qu'on peut vraiment chercher à connaître la volonté de Dieu? C'est en lisant la parole. Par la prière, on cherche le Seigneur, on a une relation vivante avec Dieu, on cherche à connaître la volonté de Dieu. Ça dit, « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le chemin droit ou sur le droit chemin. » Il te conduira sur le droit chemin, pas un chemin tortueux avec plein de précipices. Dieu veut conduire ses enfants dans un droit chemin. Amen. Et la Bible nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que seulement un certain pourcentage du corps de Christ peut recevoir, mais c'est pour chaque enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu veut vous diriger dans votre vie. Amen. Il veut vraiment vous diriger. Et si vous êtes à l'écoute de l'Esprit de Dieu, si vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous allez répondre à son appel et vous allez voir les fruits par la suite. Vous allez voir la bénédiction de Dieu dans vos vies. Ça va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est ça que Dieu veut pour vous. Et au nom de Jésus, je prie que vous puissiez croire ce que je vous dis. Parce que beaucoup de personnes ne croient pas ce que je vous dis. On croit qu'on doit essayer de trouver la volonté de Dieu, mais Dieu n'a jamais dit « essayez de trouver là où je vais vous conduire », mais il nous dit « cherchez ma volonté, cherchez ma face, lisez la parole de Dieu pour découvrir les principes de Dieu, et c'est alors que vous aurez un chemin droit. » Amen. Amen. On n'est pas appelé à essayer de trouver ce que Dieu veut pour nos vies, mais Dieu nous a montré ce qu'il veut, et c'est dans la parole. Ça commence dans la parole et les principes de Dieu. Amen. Dans le psaume 32, verset 8, ça dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Vous savez, on peut être encouragé. Dieu ne nous a pas laissé tout seul à se débrouiller. Dieu ne nous a pas laissé tout seul, mais il dit, il va nous conseiller, il va nous montrer le chemin. N'est-ce pas merveilleux? Si on a une relation avec Dieu, il va nous montrer le chemin. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Gloire à Dieu. Et dans Ésaïe 30, verset 21, dans la Bible du Sommeur, c'est dit « Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. » Voyez-vous comment c'est spécifique avec Dieu? Tu entendras derrière toi ces paroles. Le Seigneur va vous parler. « Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou aller à gauche. » Gloire à Dieu! Hey, je peux vous donner une petite histoire. J'étais à Paris et puis là, j'étais là à cause, j'avais été prêché. Puis par la suite, vous savez, il y a eu un volcan islandique qui m'empêchait de retourner au Canada. Donc, une semaine plus tard, là, j'ai pu pouvoir avoir un siège sur l'avion et puis... Là, je devais être là en telle ou telle heure, puis c'était super chaotique. Là, on ne savait pas où on s'en allait. Puis là-bas, à Charles de Gaulle, il y a plein de portes. Puis j'étais comme, mon doux, là, je ne sais pas c'est quelle place on doit aller. Puis on était totalement comme dans noirceur à ce niveau-là. Sauf que j'ai dit, Seigneur, guide-nous. Puis là, j'étais dans l'auto, c'est le pasteur Jérémy qui me conduisait. J'ai dit, tourne à droite. Il tourne à droite. Tourne à gauche. Cette porte-là. Je rouvre la porte. C'était le comptoir, et puis c'était ma place. C'est des choses, détails, simples. Mais des fois, hey, si on avait été en retard, j'aurais encore manqué l'avion, puis ça aurait été terrible. Mais c'est juste des petits détails de la vie. Mais ça, c'est un petit détail, mais imaginez le parcours de votre vie. Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre vous, mais il ne vous laisse pas tout seul. Dieu ne vous laisse pas tout seul à essayer de vous débrouiller puis à essayer de deviner. Ne devinez pas. Quand on ne le sait pas, on ne fait rien. Savez-vous, si on ne connaît pas ce que Dieu veut pour nous, on prie, puis on attend d'entendre sa voix. Amen. Puis on s'évite bien des douleurs. Dans Titre 1:9, venez avec moi maintenant. Il y a un mouvement dans le corps de Christ, anti-doctrine ou anti-connaissance de la parole de Dieu, parce qu'on dit, ben c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est ci puis ça. Il y a plein de choses qu'ils vont dire pour remplacer la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, il faut avoir une ouverture certainement à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai remarqué que l'œuvre du Saint-Esprit ne dénigre pas la connaissance de la parole de Dieu. Il y a une différence entre du bourrage de crâne où les gens vivent juste dans leur tête, où ça ne se passe pas dans le cœur, où il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Il y a une différence entre des gens religieux. Certainement, Dieu ne nous appelle pas à juste se bourrer le crâne avec la connaissance comme ça, sans vivre une expérience véritable avec le Seigneur. Ce matin, par contre, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut comprendre, c'est que Dieu veut nous donner sa connaissance pour que cette connaissance puisse avoir un impact dans nos vies, afin qu'on ne soit pas détruit, parce que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, Dieu n'a jamais fait la promotion de l'ignorance dans sa parole. Venez avec moi dans titre 1-9, dans la Bible des peuples, c'est dit, quand il, en parlant du pasteur ou l'évêque, c'est dit, quand il parle, il doit s'attacher à ce qui est sûr. Et la parole de Dieu, c'est une parole certaine. En accord avec la doctrine, il doit être capable de prêcher la saine doctrine et de réfuter les opposants. Donc, remarquez bien, la Bible nous dit que le pasteur doit s'attacher à ce qui est sûr. Imaginez la parole de Dieu, je dois m'attacher à cette parole-là. Il doit s'attacher à ce qui est sûr en accord avec la doctrine. Donc, vous voyez, le mot doctrine est dans la Bible même. Ce n'est pas un mot sale. Avez-vous remarqué ça? Amen. Il doit s'attacher, c'est dit, à ce qui est sûr, en accord avec la doctrine. Il doit être capable de prêcher la saine doctrine et de réfuter les opposants. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être contre la parole de Dieu. Et vous et moi, on doit être capable de répondre selon la parole de Dieu, selon la vérité. Amen. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau où on est surpris. Ah, tout d'un coup, il y a des gens qui sont contre la connaissance biblique. Venez avec moi dans 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Vous savez, Satan veut vous éloigner de la parole de Dieu. Le diable veut vous éloigner de cette parole parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie pour vous. Amen. C'est pas, ça ne prend pas Dieu par surprise, par exemple, qu'il y a un courant anti-parole de Dieu, où on veut juste prêcher des choses pour que les masses viennent et qui sont là et disent « Ah, oh, ben oui, ça, j'aime ça, c'est un petit bonbon pour moi. » Ce n'est pas nouveau, ça. Dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, ça dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Et on est dans ces temps-là, frères et sœurs. C'est le temps de la fin. « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Avez-vous lu ça dans votre Bible? C'est que ça dit, il viendrait un temps où ça serait comme ça. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. On dit, ben c'est pas important la doctrine, oublions ça. Comme je vous ai dit, ce pasteur-là dit, ah, on ne veut pas prêcher la doctrine, on veut le Saint-Esprit. Mais ça, c'est stupide. Parce que Dieu nous dit qu'on doit connaître la doctrine. Dieu nous dit, attachez-vous à la saine doctrine, attachez-vous. Attachez vos trucs. Parce que le diable, ou attachez vos ceintures, je ne sais pas trop comment on dit, là. Mais attachez-vous à la saine doctrine parce que l'ennemi de vos âmes veut vous éloigner de la saine doctrine pour vous emmener dans un courant qui est contre la volonté de Dieu. Amen. Donc, on veut être dans la parole. Écoutez bien. Dans Proverbes 8, versets 10 à 11. Écoutez bien ceci. Pour ceux qui disent, ben, ce n'est pas important d'avoir la doctrine, ce n'est pas important de connaître la parole. Écoute, c'est en autant qu'on a ci puis ça. Dans Proverbes chapitre 8, versets 10 à 11. Vous devez faire attention aussi à vos amis. Des gens qui peuvent vous décourager d'être dans la parole, qui vont dire, ben, c'est pas vraiment important. Parce qu'on voit, c'est vraiment le contraire de ce qu'on retrouve dans la parole. Dans Proverbes chapitre 8, versets 10 à 11, il est écrit, « Préférez mes instructions à l'argent. » Et la science, ou le mot science peut être remplacé par connaissance, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Est-ce qu'on voit ici un dénigrement de l'importance de la parole de Dieu? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin? Ça dit, dans Bible Summer, ça dit, « Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. » Ça veut dire que Dieu dit, « Ce que je dis, c'est super important pour vos vies. La connaissance de la parole de Dieu, elle est super importante pour vous. » Amen. On doit donc être des personnes de la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'être religieux ou borné ou ci, puis ça. Ça veut dire qu'on a reçu la révélation que la parole de Dieu fait autorité dans ma vie. C'est l'autorité ultime dans ma vie. Un peuple orgueilleux va dire, ben, la Bible dit ça, mais moi je dis ça, puis je fais à ma tête. Et là, on est obligé de changer la Bible pour se conformer à ce que ce que nous pensons. Mais non, c'est l'inverse. On doit se soumettre à la parole de Dieu et dire, cette parole a été écrite pour mon bien. C'est comme quand je dis à mes enfants, je ne le dis plus, là, mais mets pas ta main sur le four. C'est pas parce que je veux leur enlever un plaisir, c'est pour les protéger. Amen. C'est la même chose. Si Dieu dit, ne fais pas ceci, c'est pas parce qu'il veut m'enlever un plaisir, c'est parce qu'il veut me protéger de la mort. Il y a un chemin de bénédiction, il y a également un chemin de la vie. Et Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Mais il y a également un chemin de la mort et de la malédiction. Et ce chemin de la mort et de la malédiction est en dehors de la parole de Dieu. Donc, on ne fait pas à notre tête, on fait ce que Dieu veut. Amen. Si Jésus est le Seigneur de nos vies, s'il est vraiment le Seigneur de nos vies, on va faire ce que Dieu dit. S'il n'est pas le Seigneur de nos vies, on peut dire « Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas mon chef et je fais ce que je veux. Et ce que je veux me fait tourner en rond, me fait prendre des détours. » Et puis, je ne vis pas le maximum de ce que Dieu en réserve pour nous. Et après, je deviens un chrétien malheureux. Pourquoi? Parce que je me trompe toujours. Et Dieu ne vous appelle pas à vous tromper. Certainement, si vous dites, ben, je me suis trompé, Dieu est gracieux. Et puis, il n'est pas là, il ne nous attend pas avec un bat de baseball. Comprenez très, très bien, il n'est pas là pour dire, hey, tu t'es trompé. Non, ce n'est pas ça. Mais il veut plus pour vous. Amen. Amen. Ne soyez pas satisfait à vous tromper tout le temps. Amen. Dieu veut dire, non mon enfant, je veux te conduire dans de verts pâturages. Je veux te montrer le bon chemin. Suis-moi. Suis-moi. C'est ça ce que Dieu veut. Bon, vivre dans la parole veut dire obligatoirement qu'on va vivre dans la lumière. On va vivre dans la lumière si on vit dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 5, 105 plutôt. Le psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et une lumière sur mon sentier. Le croyez-vous ce matin? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que je ne marche pas dans les ténèbres si je suis un enfant de Dieu. Imaginez, il y a une lumière qui est là et la parole de Dieu me conduit et je ne marche pas dans les ténèbres. Mais cette lumière est là sur mon sentier. Je marche et je vois devant moi. Amen. Et dans le psaume 119, maintenant si on va au verset 9 à 10, en parlant encore du sentier, on a la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je vais le relire. Écoutez bien ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Ça veut dire, je dois être une personne de la parole pour connaître la direction de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et il y en a qui disent, oui, mais ça c'était dans l'ancienne alliance et puis aujourd'hui on n'a plus de commandements. On va voir ensemble. Jésus a dit dans Jean 14, 15, on va parler un petit peu pendant quelques instants, des commandements de Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus rien? On fait ce qu'on veut? Est-ce que c'est vrai? On va voir dans la parole de Dieu ce que Dieu nous dit. Dans Jean, chapitre 14, verset 15, et on comprend que quand Jésus parlait ici, c'était avant la croix. Okay? Donc, c'est encore dans l'ancienne alliance. On comprend ça. Jean 14, verset 15, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voyez-vous, un signe qu'on aime Dieu, c'est qu'on va respecter sa parole. Amen. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Amen. Dans Jean 8, 31 maintenant, il dit aux Juifs, c'est Jésus encore, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Voyez-vous, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Gloire à Dieu. Maintenant, après la croix, venez avec moi, après la croix, Actes 17, verset 11, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. » À chaque jour, ces gens-là étaient dans la parole et ils examinaient pour s'assurer que les choses qu'ils entendaient étaient justes. Voyez-vous comment ces gens-là, selon le texte biblique, ils étaient des gens de la parole. Ils vivaient à chaque jour dans la parole. Le voyez-vous dans vos Bibles? Amen! Merci, Pasteur Jean. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le voient ce matin? Je vais vous relire. Ils trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés. Il y en a qui sont bien disposés, il y en a d'autres qui sont mal disposés. Ben, je ne veux pas vraiment lire la Bible, j'ai 10 000 raisons pourquoi. Que les Juifs de Thessalonique et qui accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Le 26 décembre, on a ce qu'on appelle Boxing Day. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Et il y a des gens qui se mettent en file pour aller s'acheter des TV, des flat screens. Et puis là, ils sont embarrés dehors, les gens font la file, ils attendent pour aller avoir leur TV ou leur patente qu'ils veulent. Et puis ils sont là, et là, il y a quelqu'un dans le magasin qui vient débarrer la porte, ils vont ouvrir les portes, et là, les gens vont s'empresser pour aller acheter les choses à moitié prix. C'est vrai ça, n'est-ce pas? Mais nous, les enfants de Dieu, on devrait faire comme ces croyants ici. Ils accueillent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. On court vers la parole pour découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ça, c'est après la croix. Amen. Et là, Jean a dit, dans 1 Jean 2, versets 1 à 6, venez avec moi, c'est un texte, je veux vous lire ça, ça m'a trop béni cette semaine. 1 Jean 2, versets 1 à 6. Vous êtes toujours avec moi, vous ne dormez pas encore? Ce matin, là, on va allumer un feu pour ce désir pour la parole, pour vivre dans la parole. Il y a une nouvelle mode aussi, où on fait la publicité dans nos églises, j'ai vu ça. Venez à l'église, puis en dedans d'une heure, vous êtes libre. Venez rentrer à l'église, vous allez avoir une petite prédication de 20 minutes. Hey, on fait la promotion, 20 minutes de prédication, beaucoup de louanges, les annonces, 20 minutes de prédication, puis après, vous êtes libre pour aller faire ce que vous voulez. Ça, c'est de la religion, frères et sœurs. De la religion. Mais ce que Dieu nous dit, là, vous savez, quand on regarde la parole, là, l'apôtre Paul prêchait si longtemps que le monde avait le temps de s'endormir, tomber en bas d'un balcon, puis mourait. Puis on le ressuscitait, par exemple. Mais c'était pas des 20 minutes, c'était pas des 20 minutes. Ah ouais, vite, 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 donne-nous la parole. Donne-nous la parole pour qu'on puisse s'en aller le plus vite possible, parce que là, on va aller manger une poutine. Ça, c'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est pas la mode d'aujourd'hui où les gens, c'est comme, donne-moi mon fast-food spirituel pour que je puisse m'en aller au plus vite. Non, c'est comme, donne-moi la parole pour que ma vie puisse changer. Puis comme j'expliquais aussi à l'IBM hier, vous savez, des fois, les gens disent, « Ben moi, je me promène d'une église à une autre parce que moi, je ne veux pas être dans une église locale pour les 10 000 raisons qu'ils peuvent avoir. » Mais vous savez, comme j'expliquais, quand on est dans l'église locale, savez-vous ce que vous allez avoir? Un menu varié. Et ça donne que des fois, vous allez recevoir du brocoli spirituel. Des fois, vous allez manger des petits pois spirituels. Et vous savez, on ne voit pas de restaurant en ville. J'en ai jamais vu sans du brocoli. Resto Casa du brocoli. J'ai jamais vu ça, Casa du brocoli. L'avez-vous déjà vu? Casa du brocoli ou Casa des petits pois ou Casa des Brussels sprouts, des choux de Bruxelles. On n'en voit pas de ces places-là. Pourquoi? Parce que ça n'attire pas une clientèle. Mais vous avez besoin de manger du brocoli. C'est pour ça que si on se promène puis on mange juste de la poutine, ah ben la poutine là est bonne, la pizza là-bas est bonne. Et là, on se promène puis on mange ce qu'on veut, ce qui se produit. On fait de l'embonpoint spirituel, on ne fait pas grand-chose dans l'œuvre de Dieu. On devient critiqueux parce qu'on regarde ceux qui font quelque chose et qui ne font pas aussi bien que nous, qu'on pense qu'on ferait si on faisait quelque chose, mais on ne fait rien. Et, non, mais c'est vrai, sauf que là, on va se nourrir partout et on ne choisit jamais d'aller manger quand c'est du brocoli. Ah, aujourd'hui, si j'ai vu telle prédication là-bas, c'est du brocoli, puis pff, ça ne me tente pas bien, bien, je pense que je vais aller manger du gâteau au chocolat à l'autre église. Ça, c'est la nouvelle mode, mais ce n'est pas la mode biblique. La Bible dit, enracinez-vous dans l'église locale, soyez enracinés. Puis là, vous êtes béni un dimanche matin, hallelujah, gloire à Dieu. Vous êtes frustré la semaine d'après, hallelujah, gloire à Dieu. Parce que quand vous êtes frustré, vous êtes en train de changer puis de transformer. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Oh, j'aime ça, moi, quand mon pasteur, là, je l'entendais, puis il me dérangeait, puis ma chair, il disait, il me tape ses nerfs, lui. J'aimais ça parce que j'étais en train de changer. Gloire à Dieu, que je puisse vous taper ses nerfs avec amour au nom de Jésus. Parce que plus je vais vous taper ses nerfs, pas intentionnellement, je suis pas là pour intentionnellement vous donner juste du brocoli. J'essaie de rajouter un petit peu de beurre dessus et un petit peu de sel des fois, mais il faut quand même manger. Là, aujourd'hui, on est en train de voir l'importance de la parole. Écoutez bien ici, là, dans 1 Jean 2, versets 1 à 6. Moi, là, ça, c'est béni. Mais c'est tout béni, là. Mais spécialement, ça m'a béni, ça. 1 Jean 2, 1 à 6. Ça dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Oh, alléluia pour ça, gloire à Dieu. « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ah, c'est déjà payé. Dieu a payé le prix, Jésus a payé le prix pour tous les perdus de la planète. Ils n'ont juste pas encore reçu le don de la vie vie éternelle ou le pardon, mais s'ils veulent, ils peuvent recevoir ce pardon-là. Verset 3, si nous gardons ses commandements. Oh! 1 Jean 2, ça c'est après la croix, c'est pas sous la loi, puis on voit le mot commandement. Avez-vous remarqué ça? Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ceci veut dire, quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu va marcher dans la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on veut voir, on va marcher dans la lumière, pas les ténèbres. Des fois, il y a des frères qui peuvent prendre un petit détour dans les ténèbres, mais comme on prie pour eux, le Saint-Esprit qui est en eux les ramène dans le bon chemin. Amen. Des fois, il y en a qui prennent un détour de 10 ans, puis l'être humain peut dire, « Ah, oh, ben là, lui, il n'est pas chrétien, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais... » Arrêtez de juger vos frères et vos sœurs. On peut se dire, « Mais qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de... » Savez-vous, je n'ai pas besoin de penser à ces choses-là. Ce que Dieu m'appelle à faire, prier. Tu as un frère qui est tombé dans le précipice pendant 10 ans, il est allé rouler dans la boue, là. Ce que Dieu m'appelle à faire, c'est prier pour lui qu'il sorte de la boue et peut-être même aller chercher. Amen. OK? Amen. Gloire à Dieu. Bon, sauf que c'est ça qu'on veut faire. On n'est pas en train de se laver les mains et dire, bah, Dieu a oublié cette personne. Il n'a jamais rien vécu avec Dieu. C'est juste un hypocrite. Les gens passent leur temps à juger tout le monde. Jugeons-nous nous-mêmes et disons, Seigneur, moi, je veux être prêt. Je veux être dans la lumière. Je veux marcher dans la lumière. Puis si mon frère est parti dans les ténèbres, oh, Seigneur, va le rejoindre, va le toucher, va le chercher. Et le Seigneur fait son œuvre en lui et on se réjouit quand il revient à l'Église. Alléluia. Le psaume 119, verset 10 à 11, on va y aller ensemble. Le psaume 119, verset 10 à 12, en fait. Encore une fois, ici, ça nous parle de l'importance de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 10 à 12, ici, on voit, le texte dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » Et ce serait un bon verset pour enseignemoi.com, Pasteur Michael. Vous savez, c'est encore à la mode, selon Dieu, d'être des passionnés de la parole. C'est encore à mode au ciel. Je vais le relire parce qu'à force de le lire, vous recevez des choses pour vous-même. Je te cherche à moitié de mon cœur quand j'ai le temps, quand je ne suis pas trop occupé, quand je ne suis pas trop fatigué. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ça, c'est une belle prière. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Au lieu d'avoir des gens qui disent, oh, c'est pas important. Non, c'est enseigne-moi tes statuts, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Ça, c'est l'attitude de l'enfant de Dieu qui a un désir puis un amour pour Dieu. C'est pas, ben, la parole de Dieu n'est pas importante. C'est non, Seigneur, je veux l'avoir puis je la cherche de tout mon cœur. C'est ça le chrétien véritable et le signe qu'un enfant de Dieu est passionné des choses de Dieu. C'est premièrement l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Faites attention si vous côtoyez des gens qui disent, ben, la Bible. Faites attention, frères et sœurs, ne vous laissez pas influencer dans une mauvaise direction par des gens qui n'aiment pas vraiment la parole de Dieu. Là, je pourrais dire, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais là, pasteur, tu parles des commandements, tu parles de tout ça, puis là, on n'est pas sauvé par des commandements. » Je le sais bien, ça. Alléluia. Venez avec moi dans Jacques 2, verset 10. « Ne dites pas des choses que je n'ai pas dit. » Alors, vous savez, des fois, les gens ont le tour là, d'entendre ce que je dis, puis revirer ça contre moi, là. Ça fait une petite explosion, mais alléluia, Saint-Esprit est là, puis il met sa main, puis ça l'empêche l'explosion de me tuer, là. Heureusement. Mais écoutez, si vous avez des oreilles pour entendre mon cœur, je ne suis pas en train de prêcher salut par les œuvres. Avez-vous compris ça? Je n'ai pas dit, faites ceci, faites cela, vous allez être sauvés. Je n'ai aucunement dit ça. Amen. Mais il y en a qui vont le dire, je peux quasiment gager, mais je ne gage pas, là. Mais il y en a des gens qui vont dire ça, ben regarde, c'est pas ça pantoute que je dis. Alléluia, mais au moins, moi, je me crois moi-même. Jacques 2, verset 10, ça dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Ah, ça veut dire que même, tu sais, je fais une petite faute, je suis coupable de toute la loi. Donc, je ne peux pas être sauvé en observant la loi. OK, on comprend ça. Ce n'est pas parce que j'ai respecté tous les 10 commandements que j'ai une place au ciel. C'est impossible de respecter les commandements à 100% puis mériter notre ciel. Parce que si on pouvait le faire, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Il n'aurait pas dit, écoutez, il ne serait pas venu mourir et payer la dette de péché si on pouvait se sauver nous-mêmes. Il aurait sûrement épargné le sacrifice à la croix. Moi, je suis pas mal certain qu'il aurait épargné ça. S'il pouvait dire, admettons, bien, allez vous faire baptiser dans tel tank, là, dans telle piscine, allez vous faire baptiser là, puis regarde, tous ceux qui vont se faire baptiser là sont sauvés. Je suis certain et convaincu que Jésus a dit, bien, je ne me déplacerai pas à ce moment-là. Hein? Ou adhérer à telle religion. Je suis certain, imaginez Jésus, s'il avait pu dire, bien, faites ceci, faites cela, vous allez vous sauver vous-même. Mais c'est impossible, ça prenait le sang de Christ qui était pour être versé pour payer notre dette de péché. Bon, sauf que là, c'est sûr, ce n'est pas la loi qui nous sauve, mais ça ne veut pas dire qu'après, on oublie les commandements de Dieu, puis on dit, on s'en balance. Matthieu 22, 34 à 40. On va le voir ensemble maintenant. Matthieu 22, 36 à 40. Que Dieu m'aide à aller vite et lent en même temps. Bon, là, je vais vous montrer ici clairement, là, on n'est pas en train de prêcher salut par les œuvres de peur qu'on se fasse accuser. Matthieu 22, 36 à 40, il est écrit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Ben, voyez-vous, c'est un beau commandement, ça. « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voyez-vous, ça c'est... Vous savez, si vous aimez Dieu, si vous aimez votre prochain... Vous n'allez pas tuer votre prochain, vous n'allez pas le dérober, vous n'allez pas, commettre l'adultère. Vous ne ferez pas ces choses-là si vous marchez dans l'amour, voyez-vous? Si on marche dans l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, on va respecter les commandements de Dieu, on va honorer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est la révélation d'un salut authentique, c'est les fruits qu'on va produire dans nos vies. Et ce n'est pas par les fruits qu'on est sauvés. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut comprendre. Amen. Maintenant, une saine connaissance biblique va donner une vie saine selon l'ordre divin. C'est ça la chose importante à comprendre. C'est que si j'ai la parole de Dieu, bien, et si j'ai une saine connaissance de la saine doctrine, okay, j'ai une connaissance véritable, on va voir ma vie, on va voir le résultat de ma vie selon Dieu, selon l'ordre divin. Amen. C'est pour ça que c'est important. Si je sers la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, mais pas juste dire, bien là, j'ai pas chuté, j'ai pas commis tel ou tel péché, pas juste pour ne pas pécher, mais pour en fait marcher selon la volonté de Dieu, bien là, on va voir véritablement l'ordre divin dans ma vie. On va marcher selon l'ordre divin. Amen. Bon, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui se réjouissent. « Ah, bien, cette semaine, j'ai pas engueulé ma femme. Alléluia! » Cette semaine, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais c'est bien, gloire à Dieu, que vous n'avez pas engueulé votre femme. Je pourrais le dire autrement. Là. Mais c'est bon quand on n'a pas chuté. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas juste à être satisfait qu'on n'a pas chuté. Il veut également qu'on puisse progresser. Amen. Mais comment faire? C'est là qu'il faut tout orchestrer notre vie selon l'ordre de Dieu. Et c'est là où on marche dans l'humilité. Parce que si on ne marche pas selon l'ordre en ce moment, ça veut dire qu'on va changer. On va changer notre fusil d'épaule, on va changer d'idée. Alléluia! Gloire à Dieu. OK. Là, venez avec moi, dans Proverbes 14, verset 12. Je sais qu'il y a beaucoup de versets, mais je le répète, puis je sais que ici, même si je prêche 2 heures, il n'y a pas de problème. Proverbes 14, verset 12. Pour nos amis au Nouveau-Brunswick qui sont là, « Ah non, nous autres, notre culte commence 1 heure plus tard, on va avoir encore plus faim. » Ne vous inquiétez de rien. Proverbe 14, verset 12, ça dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Avec notre jugeote, okay, les êtres humains peuvent s'imaginer « Ah ben ça, cette voie-là semble bien. » Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ou dans la Bible du Sommeur, ça dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » C'est que ben, moi, je suis correct, je fais ma religion de ma façon, je fais ci, vous savez, moi, il y a une personne qui me disait l'autre fois, « Ah, ben moi, là, moi, je suis convaincu de telle affaire, admettons. La personne me disait, « Ben moi, la Bible, cette partie-là, moi, je ne la crois pas. Cette partie-là dans la Bible, moi, je ne la crois pas. Moi, c'est ma théorie, c'est celle-ci. » Il y a des gens, là, des chrétiens, des fois, qui vont rentrer dans les arguments puis vont commencer à dire, « Ben, OK, ben là, toi, ton argument, il y a ci, il y a ça. » Puis là, on va commencer à décortiquer l'argument de la personne. Savez-vous, moi, ce que j'ai répondu? J'ai dit, « Ce que tu en penses, ça ne change absolument rien à la vérité. » Ce que tu en penses, excusez, mais pensez-vous, parce que vous avez telle opinion que ça va changer l'opinion de Dieu. C'est Dieu qui détermine ce qui est vrai. C'est pas, vous changez ce que vous voulez. Vous pouvez croire que Jésus, c'est un extraterrestre mauve avec des guimauves à la tête. Ça ne changera pas que c'est pas ça. Vous comprenez? Non, mais les gens se fabriquent toutes sortes d'affaires. Ben moi, c'est ça. Ben, croyez ce que vous voulez, mais ça ne change rien que la vérité est la vérité. Amen. Le nord, c'est en haut, puis le sud, c'est en bas. Puis, ben moi, je crois que le nord, c'est comme. Tu sais, c'est comme. Ça ne change rien. OK, on continue là. Pensez pas à juste Jésus avec des guimauves sur la tête. C'est pas ça le but du message. OK, sauf que là, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Là, Dieu a dit, dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies, ce ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En autre mot, c'est que finalement, on n'est pas dedans. Humainement, là, charnellement, on n'est pas dedans du tout. C'est que Dieu, ses voies et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Puis si on est humble, on va dire, « OK, Seigneur, ben, instruis-moi. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Amen. » Puis là, si je suis comme ça, là, Dieu, il nous dit dans 1 Corinthiens 2, 16, qu'on peut avoir la pensée de Christ. Ah, la pensée de Christ. Ça veut dire qu'on va penser comme Dieu. Comment y arriver? En s'exposant à la parole de Dieu et en déterminant que le plan de Dieu pour ma vie, c'est la parole. Moi, je vais faire exclusivement ce que Dieu a dit dans sa parole. Moi, je me suis déjà fait accuser par une jeune fille, il y a plusieurs années. Elle dit, « Ah, tu es en train de me dire, toute ta vie, là, tu vas vivre ta vie selon ce livre noir-là. » Elle me dit ça. Je l'ai déjà dit ici à l'église. Je me répète. Alléluia. Je peux même le répéter tout de suite en plus. Elle me dit, tu vas vivre toute ta vie selon ce livre noir-là. Et j'ai dit, alléluia, oui. Je vais vivre toute ma vie selon ce livre noir-là. Parce que ce livre noir-là, c'est la vie pour moi. C'est ma vie, c'est ma protection. Comme je vis selon la Bible, hey, je vois Dieu agir dans ma vie. Ce n'est pas de la religion, c'est une relation vivante. Et la parole de Dieu, pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Gloire à Dieu. Là, on est rendu à la partie importante. Mais c'était tout important. Mais là, j'ai fait les fondements. J'ai fait mon introduction. Non, n'ayez pas peur. OK, là, je veux juste vous donner, si on prend dans le pratique, là, OK, là, je vous ai tout dit comment c'est important d'avoir la parole et d'être selon la parole. Ça a pris 45 minutes de vous dire ça. Vous êtes tous d'accord avec moi? Vous avez suivi? Je n'ai pas besoin de tout répéter? OK, good. Là, je veux vous donner un jeune homme qui vient d'accepter le Seigneur puis dit, OK, là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais vous dire, je vais répondre au petit jeune homme là, qui vient d'accepter le Seigneur, quoi faire maintenant? Êtes-vous prêt? Si vous êtes une jeune femme, vous venez d'accepter le Seigneur, ben, vous pouvez transposer les illustrations, faites l'inverse. OK? Alléluia. Première chose, et ça, c'est un CD après qu'on va offrir aux nouveaux chrétiens. Puis si vous êtes un vieux chrétien et vous n'avez jamais fait ce que je vous dis là, vous pouvez changer. Alléluia. OK, mais on va passer quelques instants ici. Un nouveau chrétien qui vient juste d'accepter le Seigneur, première chose qu'on veut établir dans nos vies, le Proverbe chapitre 1, verset 7, c'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu, la première chose. Proverbe 1, 7, ça dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, la première chose quand on devient un enfant de Dieu, première chose, c'est d'avoir une crainte de Dieu. Mais comment avoir une crainte de Dieu? C'est de suivre la parole de Dieu. C'est premièrement, là, j'ai une crainte de Dieu, je veux suivre la parole de Dieu, pas comme une religion qui est imposée à moi, mais comme étant l'amour de Dieu qui m'est communiqué pour me préserver. Et en même temps, comme j'ai une crainte de Dieu, j'ai une relation vivante avec Dieu dans la prière, j'ai une communion avec Dieu. Et là, comme je lis la Bible, le Saint-Esprit me révèle sa parole, j'ai des rémas, ça change ma vie. Moi, je l'ai vécu, je pourrais vous raconter plein de témoignages. Je suis allé à Genèse cette semaine, puis j'ai raconté plein de témoignages de ma vie. Et en partageant ma vie, je suis comme, wow, Dieu a été bon. Dieu m'a épargné de ci, il m'a épargné de ça, il m'a béni ici, il m'a béni là. Mais c'est pour tout le monde, ça. C'est pour toute la gang. Il ne fait pas d'exception de personne. Il veut tous qu'on puisse le suivre et vivre la bénédiction dans nos vies. Donc, la première chose, c'est de déterminer dans vos cœurs, vous allez craindre Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne ferez pas le restant. Amen. Donc, il y a ça. Deuxième chose, vous êtes un jeune homme, vous voulez fonder une famille, vous devez trouver une femme de Dieu. Ça fait du sens. Proverbe 18, verset 22. Et là, remarquez, j'ai dit trouver une femme de Dieu. Je n'ai pas dit trouver une femme du diable. Mais ça existe, ça, des femmes du diable. Mais Jésus a dit aux religieux, vous êtes de votre père le diable. Parce que ces personnes-là n'avaient pas été adopté dans la famille royale de Dieu. Il faisait partie du royaume des ténèbres. Première chose, un enfant de Dieu, on va vouloir, si on est un jeune homme, trouver une femme. Dans Proverbe 18, verset 22, puis ça ne veut pas dire le moment que vous venez d'accepter le Seigneur, première chose que vous faites, là. Écoutez bien, là. Je vous donne les priorités. L'ordre, les priorités. Ce n'est pas accepter le Seigneur Jésus ici en avant, là. Puis, OK, trouve-toi une femme. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Comprenez bien. OK, vous me suivez, là? OK. Mais trouvez la femme de Dieu. Proverbe 18, verset 22, ça dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Je peux témoigner que c'est vrai. Moi, j'ai trouvé une bonne femme. Pas une bonne femme. J'ai trouvé une bonne femme merveilleuse, Mathilde Gaudrette, que j'ai mariée et que j'ai le bonheur. Puis je suis béni au maximum avec ma femme. Je l'aime, puis je ne regrette pas de l'avoir mariée. Hein? C'est merveilleux, ça, d'aimer sa femme. Moi, je l'aime, ma femme, je trippe encore dessus. Parce que je l'aime. Puis c'est un cadeau de Dieu. Moi, je vois Mathilde que Dieu, puis je l'ai déjà dit une fois, puis je me suis fait envoyer un courriel de « Au nom de Jésus, gardez votre courriel. » Mais j'ai dit que Dieu avait créé Mathilde pour moi. Puis là, la personne, « Tu es arrogant. » Ben, vous croyez ce que vous voulez. Moi, je voulais dire là, que Dieu l'a préparé. C'est un cadeau de Dieu pour moi. Est-ce que je peux croire ça? Si vous ne m'aimez pas, écoutez-moi pas. OK, c'est que trouver la femme de Dieu, trouver celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien, c'est même biblique. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je viens d'être justifié, alléluia. Bon, ben moi, j'ai été béni, puis je me réjouis. Bon, mais là, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, dans la Bible du Sommeur, ici, on a une consigne. Une consigne de la parole de Dieu, ça dit, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, celui qui est juste... » Juste justifié, sauvé, peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Oh, ça, ce verset-là, je viens de vous le dire, puis il y a plein de gens qui n'écoutent pas ce que Dieu dit à ce niveau-là. Bien, je vais sortir avec la fille, puis regarde, elle va changer, elle va devenir une chrétienne. Oui, elle va peut-être devenir une chrétienne et même se faire baptiser pour te faire plaisir. Puis le moment que l'anneau va être sur le doigt, là, après, elle va vouloir rien savoir de Dieu. Et là, imaginez si ma femme ne voulait rien savoir de Dieu. Imaginez mon défi. Avez-vous déjà pensé à ça? Si ma femme était là, « Hey, t'es toujours rendu à l'église chaque dimanche matin. Coudonc, on ne peut pas faire d'autre chose dans la vie. Si t'as pas sauvé, elle dirait ça. Amen. » Là, je veux élever mes filles dans les voies de Dieu. Ben là, regarde, on va prendre de chaque religion. Là, puis, hey, ça serait bien trop compliqué de vivre ma vie. Ça serait très difficile. Quand on a les instructions de Dieu, on devrait suivre ce que Dieu dit. Mais là, si vous dites, ben moi, je me suis converti après mon mariage, ben là, vous restez dans votre mariage et vous priez que votre conjoint ou conjointe se convertisse vraiment au Seigneur Jésus. Là, on prie, on ne se divorce pas parce qu'on n'est pas marié avec un enfant de Dieu, mais on ne choisit pas de marier un inconverti qui ne veut rien savoir de Dieu. Si on veut avoir des problèmes dans nos vies, faisons à notre tête. Mais si on veut être béni puis marcher dans les plans de Dieu, on devrait honorer Dieu, ce que Dieu a dit. Amen. Mais il y a plein de monde qui disent, ben moi, je vais faire ça à ma façon. Ben oui, ils font à leur façon. Puis j'en vois plein de gens qui disent, ben moi, je fais ça à ma manière. On ne devrait pas marier en passant. Moi, là, je ne fais pas de mariage avec des gens dans mon église qui viennent, là. Ils viennent dans mon bureau, ils veulent des cours de préparation au mariage. Il y en a un sauvé, pas un autre pas sauvé. Je ne marierai pas ces gens-là. Et un pasteur ne devrait jamais marier un inconverti avec un chrétien. C'est contre la parole de Dieu. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Puis là, il y en a qui, ouais, mais ils vivent dans le péché, au moins ils vont arrêter de vivre dans le péché. Non, ils vont continuer à vivre dans le péché, ils vont avoir un anneau à leur doigt, mais ils vont continuer à vivre pour le diable. Si on n'est pas sauvé, même si on fait une chose correcte, le restant de leur vie ne changera pas non plus. Amen. Amen. Chez là, je dérange du monde. On marie, bien, il faut honorer Dieu. Dieu a dit, tu maries une croyante, tu maries un croyant, bien, bingo, c'est ça que Dieu a dit, c'est ça que je vais faire. Amen. Amen. Bon. Là, ensuite, vous êtes encore avec moi? Ça fait 4 minutes que je prends là-dessus, là, les consignes. On craint Dieu, ensuite on trouve une bonne femme, une chrétienne. Ou si vous êtes une jeune fille, vous trouvez un bon mari. Amen. Les fréquentations, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit correct, j'ai dit? Un bonhomme, ah oui. OK, les fréquentations, maintenant, les fréquentations dans la sainteté. Là, non seulement, OK, là, admettons que vous avez trouvé la femme de vos rêves, jeune homme. Vous êtes un jeune homme rempli du Saint-Esprit. Vous avez trouvé une jeune fille remplie du Saint-Esprit, appris en langue de 7 heures le matin à 7 heures le soir, là, puis a appris pour les malades, puis ça va par là. Là, ce que Dieu vous dit, vous entrez dans une période de fréquentation dans la sainteté. Une période de fréquentation. Dans 1 Corinthiens 6, 18, ça dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Fuyez l'immoralité sexuelle. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire, si on va fuir l'immoralité, on ne se mettra pas dans des situations où on peut chuter. Amen! Vous savez, on ne voit jamais des gens coucher ensemble au restaurant. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Donc, si vous voulez fuir l'immoralité, n'allez pas vivre avec la jeune fille avant le mariage. Vous risquez de tomber. La Bible dit de fuir l'immoralité, ça ne dit pas d'aller vous mettre dans le gueule du lion. Amen? C'est une expression que ça marche, ça? Alléluia. Donc, on va vivre selon ce que Dieu a dit. On ne vit pas avec quelqu'un avant le mariage. Amen. Ça, ce n'est pas la mode aujourd'hui, mais Dieu dit, on va se fréquenter dans la sainteté. Ça veut dire, quand on va être ensemble, on va être avec des frères et des sœurs ou des personnes qui vont faire en sorte qu'on ne pourra pas chuter sexuellement. Ça dit de fuir. Mais si on fuit, ça veut dire qu'on ne se met pas dans des situations où on peut chuter. C'est beaucoup plus facile de ne pas chuter quand on n'est pas dans une position où on peut tomber, où il n'y a pas de tentation, que lorsqu'on est plein de tentation. Puis il y en a dans nos églises, pas ici, mais ailleurs, où on entend des histoires. Puis je ne dis pas ici, gloire à Dieu, on ne l'a jamais vécu. Puis si on le vivait, on aimerait la personne quand même, parce que c'est un Dieu de grâce et de restauration, mais ce n'est pas la meilleure chose que Dieu veut pour vous. Mais où il y a des gens qui ont des enfants en dehors des liens sacrés du mariage. Puis là, ils ont chuté, mais s'ils avaient été dans le chemin de Dieu et l'ordre divin, c'est impossible. Une jeune fille ne tombera pas enceinte à Réunion de jeunesse. Alléluia! Ça n'arrivera pas à Réunion de jeunesse. Amen! OK, gloire à Dieu, je continue. Donc, les fréquentations dans la sainteté, et là, dans 2 Timothée 2, 22, ça dit, « Fuis les passions de la jeunesse », ou Bible du Sommeur, ça dit, « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme, et recherche, c'est pas juste, faites rien, non, mais recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux, écoutez bien, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, avec ceux. » Tenez-vous pas toujours avec des mondains qui vont se saouler, puis là, vous devez résister à la tentation. Soyez intelligents, tenez-vous avec les frères et les sœurs qui vont vous encourager dans la bonne direction. Amen! Amen, je suis d'accord avec moi-même. Puis là, je sais, là, je suis en train de dire des choses, on est en train de déranger des esprits religieux, et il y a des gens qui vont dire, ah, c'est un légaliste. Alléluia! Dites ce que vous voulez, mais ce qu'on voit ici, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ensuite, là, vous vous êtes fréquenté, vous êtes dans une période de fréquentation, là, vous sentez vraiment, hey, on est fait l'un pour l'autre. Là, ce qu'on fait, on appelle le pasteur, et là, savez-vous ce qu'on fait? Des cours de préparation au mariage. Des cours de préparation au mariage. Avant qu'on fasse des mariages ici, les gens ont toujours suivi des cours. Savez-vous pourquoi? Il y a des gens qui ne se sont pas mariés dans mes cours. J'ai une onction de détruire des couples, moi. Non, c'est une joke. Mais vous venez, je vous donne des devoirs. Moi ou peut-être d'autres pasteurs de l'équipe vont pouvoir en faire. Je vous donne des devoirs, vous répondez aux questions. Dans mon bureau, « Madame, combien d'enfants vous voulez avoir? » Un enfant. « Monsieur, 12. » Ben, vous n'êtes pas compatible à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je veux avoir un commerce toute ma vie. Et vous, monsieur, moi, je vais être un missionnaire en Afrique. Ah, bien, c'est encore une fois, c'est pas très compatible là-dedans. Et toi, comment tu veux vivre Noël, admettons, l'année prochaine? Bien, moi, c'est sûr, c'est dans ma famille. Non, c'est dans ma famille. Et là, c'est une crise dans le bureau. J'ai déjà vécu des choses semblables et les gens ne se sont pas mariés. Alléluia pour les cours de préparation au mariage. C'est mieux de vivre ça pendant qu'on est en amour qu'après le mariage puis après qu'il y a des crises. Amen. C'est bien meilleur de prévenir que de guérir. Amen. OK, je continue. Des cours de préparation au mariage, c'est super béni parce que quand les gens voient, hey, on est vraiment fait pour l'autre, on a vraiment la même vision, notre concept de notre rôle est vraiment bien défini, on s'entend là-dessus, il n'y a rien dans les ténèbres, on n'a pas des mauvaises attentes, tout est beau, c'est biblique, c'est chrétien, et en plus, on est deux enfants de Dieu. Vous savez, un mariage béni, c'est un homme, une femme et Dieu. C'est que la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Quand Dieu fait partie du mariage, peu importe les épreuves de la vie, peu importe les vents contraires, quand on a Dieu dans notre mariage, on va être béni. Amen? C'est comme ça marche. OK, on continue. Ensuite, là, moi, j'ai dit, hey, moi, je crois dans votre union, je suis prêt à vous bénir. Parce qu'en passant, le mariage, ce n'est pas une obligation de la part de l'Église. Il y a des gens qui disent, vous êtes obligé de me marier, on va à l'Église. Non, il y a des gens qui sont venus à l'Église et ont dit, regarde, moi, je veux que vous mariez, je ne vous connais même pas. C'est pas comme ça marche. On n'est pas Las Vegas ici, là. C'est-à-dire qu'on marie ceux qu'on veut. Si moi, je crois que Dieu peut bénir votre union, que c'est la volonté de Dieu, moi, je vais vous dire, je crois. Puis il y en a des couples, je m'excuse, vous êtes convaincus, mais ça ne sera pas moi qui va vous marier, parce que je ne crois pas à votre union. Mais je vais vous dire la vérité. Amen. OK, je continue. Là, le mariage, Éphésiens 5, verset 31, ça dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Amen. « Et les deux deviendront une seule chair. » Ça, c'est la volonté de Dieu, un homme et une femme. Gloire à Dieu. Ensuite, l'habitation commune. Après le mariage, on vit ensemble. Pas avant. On met le charrue derrière. Derrière le bœuf? Non. Oui, c'est ça. Alléluia, vous avez compris. On fait les choses selon l'ordre de Dieu, si on veut être béni. C'est l'ordre de Dieu. Sauf que là, on s'attache à notre femme après le mariage. Hein? On quitte notre père et notre mère. On les invite pas à venir chez nous tout de suite. Là. Peut-être plus tard, si vous voulez, mais l'idée, là, c'est pas... Vous comprenez? Okay. C'est que là, on ne marie pas la belle-mère, on marie la fille. Amen. OK. Fondation de la famille. Ensuite, là, on va avoir des enfants. Parce que nos enfants sont là, puis ils savent qu'on s'est engagé l'un envers l'autre. On a dit, moi, je veux vivre toute ma vie avec Mathilde Gaudreau. Je m'engage que je vais l'aimer comme Christ a aimé son Église. Et c'est ça la question que je devais me poser. Est-ce que j'aime assez ma femme que je serais prêt à mourir pour elle? Mais si j'ai dit oui, c'est ça que j'ai dit quand j'ai réalisé que c'était la femme que Dieu avait choisie pour moi, que je l'aimais à un tel point que j'étais prêt à mourir pour elle. Mais là, les enfants, savez-vous, là, les enfants, ils se sentent en sécurité parce que le papa s'est engagé envers sa mère. Envers leur mère. C'est ça que Dieu veut. Mais si je quitte ma femme, admettons, je ne l'avais pas mariée, on vivait dans le concubinage, admettons, puis là, après, je la laisse, elle ne devrait même pas être surprise. Pourquoi? Je ne me suis jamais engagé envers elle. Je ne me suis jamais engagé. Non, je ne l'aimais pas assez de la marier. Et si vous êtes dans une situation comme ça, ou à la radio, Internet, vous devez mettre votre vie en règle. Parce que je peux vous dire ceci, hello, écoutez bien, ceux qui dormaient en ce moment, la trompette va sonner et vous restez ici si vous n'êtes pas selon la parole de Dieu. Sans la sanctification, la Bible dit, nul ne verra le Seigneur. Croyez ce que vous voulez, mais sans la sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur et vous allez vivre la tribulation qui arrive sur la terre. Mettez votre vie en règle, le temps presse. Amen. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec moi-même. OK, fondation de la famille. C'est sérieux, enfant de Dieu. On ne joue pas à la religion, on veut mettre en application ce que Dieu a dit. Donc, on se marie, ensuite on vit ensemble, ensuite, on a des enfants, Proverbe 22, verset 6. En passant, si vous avez dit, mais j'ai eu mes enfants avant le mariage, Dieu est capable de restaurer votre vie. Si vous êtes repentant, puis vous dites, là, je veux mettre ma vie en règle, Dieu vous prend comme vous êtes, ne vous inquiétez de rien. Si vous avez un cœur repentant, puis vous dites, Seigneur, là, je veux mettre ma vie en règle, j'ai fait ça tout croche, mais là, je viens d'apprendre que ce n'était pas ça. Là, Dieu dit, OK, je vais vous organiser tout ça, je suis capable de restaurer, mais vous devez prendre la décision de marcher avec Dieu. Dieu ne prendra pas la décision pour vous. Amen. C'est à vous de décider, puis le restant va suivre. Gloire à Dieu. Fondation de la famille, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dans Proverbe 22, verset 6, quand on s'est marié, on a eu des enfants. Là, Proverbe 22, verset 6, ça dit, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a toute une mode, on n'enseigne pas nos enfants, on va laisser la société leur enseigner, puis quand ils auront 18 ans, ils prendront leurs propres décisions. Wrong answer. La Bible dit le contraire, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Adolf Hitler prenait les petits-enfants en Allemagne, puis essayait d'inculquer la haine contre les Juifs. Il était plus intelligent que bien des gens dans la société, parce qu'il savait qu'il faut les prendre dans leur jeunesse pour instaurer la haine. Nous, on doit leur prendre dans leur jeunesse pour leur instruire l'amour de Dieu. Et leur faire découvrir que Jésus les aime avec un amour éternel. Ce n'est pas à 18 ans qu'on leur dit, hey, en passant, Dieu t'aime. Non, c'est dans leur jeunesse. Dieu t'aime, Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan est dans la parole. Et on va t'enseigner les voies de Dieu selon la parole de Dieu. Amen. OK. Ensuite, et là, vous êtes avec moi jusqu'à présent. Là, on a eu des enfants. Et en plus, on vit dans la parole et dans l'église locale. Hébreux 10, 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, dites au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur arrive, soyons fidèles à l'Église locale, c'est ça que Dieu nous dit. Sauf que je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai fait les couples, là, je ne suis pas en ordre, j'ai craint Dieu, j'ai trouvé une bonne femme, fréquentation dans sainteté. préparation au mariage, mariage, fondation des enfants, fondation de la famille avec des enfants, et la vie dans l'église locale tout au long du parcours. Parce que dans mon église locale, c'est là où je reçois ma nourriture spirituelle, pas juste la malbouffe spirituelle, ou la malbouffe juste du popcorn puis de la pizza, mais je reçois le brocoli divin. Amen. Et là, mes enfants grandissent dans les voies de Dieu. Les enfants grandissent à l'Académie de la foi, sont enseignés dans les voies de Dieu, et puis ils peuvent maturer en Dieu. Et là, ça fait une famille heureuse et bénie. Et tout ça, ce que je vous dis, il y a des gens, des fois des chrétiens qui disent, « Ben moi je ne fais pas ça comme ça. Moi, j'ai ma version, mais votre version, là, ne marche pas et elle n'est pas bénie de Dieu. » Il y a une version, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis Dieu, là, savez-vous, Jésus est exclusif. Il y a un chemin, en anglais, il y a un chant de Hillsong, c'est « One way, Jesus, one way. » C'est un chemin, oui, on est intolérant dans les mauvais chemins qui mènent à la mort, mais on n'est pas intolérant dans le sens qu'on rejette personne. Non, on reçoit tout le monde et l'amour de Dieu va transformer chaque personne qui se met en accord avec Dieu. C'est-à-dire qu'on est intolérant contre le poison, on est intolérant contre la mort, mais on est tolérant pour, on reçoit tout ce que Dieu en réserve pour nous, pour qu'on puisse marcher dans ses voies, être béni et vraiment recevoir tout ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, je termine avec un seul verset, et après, j'ai invité l'équipe de la louange à s'approcher. On a déterminé aujourd'hui, on veut vivre dans la parole. Vivre dans la parole, c'était un long message peut-être. Peut-être, j'espère que vous n'êtes pas endormi, mais tout ça pour dire, on vit selon la parole. On ne fera pas notre volonté, mais comme Jésus a dit, a prié, Père, que ta volonté se fasse, pas la mienne, mais la tienne. Si Jésus avait l'humilité de dire, Seigneur, moi, je veux faire ce que toi, tu veux, bien, on devrait faire la même chose. Et ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Dans Colossiens 2, verset 7, ça dit, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Merci Seigneur Dieu pour le brocoli que j'ai reçu à EVQ ce matin. Merci pour les petits pois. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ces choses-là. Je le relis. Enracinez-vous. L'équipe de la louange, vous pouvez venir maintenant, s'il vous plaît. Enracinez-vous en lui. Est-ce qu'on peut s'enraciner dans le Seigneur Jésus? Construisez toute votre vie sur lui. Toute votre vie. Prenez pas des détours. Faites ce que Dieu vous dit. Si vous êtes dit, ouais, mais je veux me marier, j'ai hâte de me marier, correct, mais vous ne voulez pas marier le mauvais monsieur, madame. Et monsieur, vous ne voulez pas marier la mauvaise fille, parce que vous pouvez vous marier vite, 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 parce que vous voulez vous marier puis être mal pris. Vous ne voulez pas être mal pris, hein? Vous voulez être béni puis heureux. Bon, bien, faites les choses comme Dieu. Dieu, en passant, il a toujours raison. Toujours raison. D'autres, on dit, ouais, mais moi, je veux faire ça, c'est pas ça la mode. Ouais, mais la mode, regardez, ça va de pire en pire. La société s'est rendue maintenant, savez-vous, qu'un homme qui a marié un chien. Oui, oui, oui. Il y a un homme a marié un chien. Parce que la société s'en va comme ça. Il n'y a plus de moralité. On a dit la Bible, on s'en balance. Ce que Dieu a dit, ce qui a marché depuis toujours, on s'en balance et on fait la vie comme on veut. Mais la Bible nous dit, ne suivez pas le monde, ne suivez pas le courant de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus. Ça veut dire attachez-vous là, de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Donc, gloire à Dieu. C'est ça que Dieu nous dit et notre réponse devrait être Amen. Amen. Pendant que l'équipe de la louange vous chantait un chant, j'aimerais juste vous donner l'opportunité ce matin. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Vous ne l'avez jamais fait. Vous n'avez jamais dit, Seigneur, tu deviens Seigneur là, aujourd'hui. Pendant longtemps, peut-être vous avez cru qu'il était le sauveur. Oui, je crois que Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Mais peut-être que vous n'avez jamais dit, je vais faire ce que tu veux maintenant. Je veux arrêter d'être mon propre boss. Tu deviens le chef de ma vie. C'est ça que ça veut dire, Seigneur. Je veux te donner ma vie et tout mon parcours qui est tout croche. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je me repens puis je vais changer de parcours. Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas juste de recevoir le don de la vie éternelle et de recevoir l'amour. Après, il veut qu'on sorte du chemin de la mort. Il faut sortir du chemin de la mort. C'est ça, il y en a qui disent « Je reçois l'amour de Dieu, mais ils restent sur le chemin de la mort puis s'en vont vers l'enfer. » C'est pas ça que Dieu veut. Il veut que vous puissiez quitter le chemin de la mort et entrer dans le chemin de la vie et de la bénédiction. Mais vous devez prendre la décision. Et aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, je vais vous inviter pendant que les têtes sont penchées maintenant, levez la main là où vous êtes et levez-la comme ça et dites « Je m'engage aujourd'hui en levant la main. Je m'engage, je donne ma vie au Seigneur Jésus. » Amen. Gloire à Dieu. Si la trompette sonne, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt aujourd'hui? Est-ce que votre vie est en règle devant Dieu? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est encore le jour du salut. Si une ou des personnes ce matin, ou peut-être sur Internet aussi, vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Je vais prier une prière. Peut-être nos amis, il y a peut-être des gens sur Internet en ce moment qui disent, « Je veux te donner ma vie. » Ce que vous avez besoin de faire, c'est lui demander de vous pardonner, vous laver, vous purifier. Et vous dites, « Seigneur, je te donne ma vie. Je me repens, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Et je reçois Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie au nom de Jésus. » Amen. Et si vous avez accepté de prier au Seigneur et lui donner votre vie, contactez-nous aujourd'hui en écrivant à info@evqmedia.com et on va se réjouir avec vous parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous savez, des fois, là, quand on fait les choses à notre façon, notre tête, on ne se voit pas, mais on est dans un précipice, on est en train de couler, puis on s'en va vers notre mort, comme on a vu dans la parole. On est là, on est en train de glisser vers notre mort, et il y a quelqu'un qui nous dit, hey, « Tu es en train de mourir, donne-moi la main, je veux te retirer. Donne-moi la main. » Puis des fois, il y a des gens qui peuvent dire, « Dis-moi pas la vérité, je veux pas savoir que je suis dans le chemin de la mort. Je veux pas que tu me dises que je suis en train de mourir. » Mais c'est pas, si on le dit pas, que la personne va vivre. Mais il faut le dire, il faut dire la vérité, il faut dire, je veux t'en sortir. Et c'est ça que Dieu fait, il nous dit la vérité, pas pour nous déranger seulement, mais pour nous changer, pour nous donner la vie, pour nous sortir du chemin de la mort, pour nous relever et pour qu'on puisse vivre. La parole de Dieu n'est pas là pour nous mettre des barrières, mais elle est là pour nous donner la vie. Et ce matin, comme on est là, j'aimerais ça, tous ceux qui ont placé leur confiance dans la parole de Dieu et dans vraiment, ils ont vu la bénédiction de Dieu en mettant leur vie selon la parole, j'aimerais vous inviter ce matin à applaudir le Seigneur. Tous ceux qui sont témoins de ce que j'ai dit, que c'est vrai, que ça marche, la Bible, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Que ça marche! C'est biblique et ça marche! Alléluia! Merci Seigneur Dieu pour ta parole! Merci Seigneur Dieu pour tes plans! Merci Jésus! Alléluia! Merci pour la vérité! Merci parce que tu as sauvé! Alléluia! Oh, oh, oh. Seigneur Dieu, on te remercie! On te remercie pour ton amour pour nous! Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton fils Jésus! Merci parce que tu nous as donné ta parole! Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, ton Esprit qui est le consolateur. Tu ne nous laisses pas tout seul, tu nous montres le chemin à suivre, tu nous montres comment notre vie peut changer. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Merci Seigneur Dieu pour ces projets de paix qu'on reçoit comme nous disons oui, comme nous te disons oui Seigneur. Oui à ta parole, oui à ta parole, oui à ta volonté dans nos vies. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu. Alléluia. Seigneur, je déclare sur chaque tête ce matin le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.